Hébreux chapitre 2, versets 17 et 18. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Bonjour à tous, frères et sœurs. Car Christ ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. J'aimerais qu'on puisse contempler la réalité qui est ici exprimée dans la parole de Dieu vis-à-vis de ce que Jésus-Christ a souffert en ayant été tenté et de ce qu'il a été, il est devenu semblable en toute chose à nous. Par la grâce de Dieu, on va aujourd'hui contempler cette réalité. Et tout particulièrement dans le contexte de notre expérience de la tentation. Parce que ici, nous lisons l'expérience de Jésus. Mais nous voulons apprendre à apprécier en quoi nous sommes concernés très intimement et personnellement par les souffrances de Jésus-Christ dans la chair de péché face à la tentation. Donc, frères et sœurs, tout d'abord, j'aimerais préciser une chose, c'est que dans les études que je partage ici, je n'ai aucune intention de susciter un esprit de discorde ou un esprit d'oppression ou de résistance. Mon objectif, ce n'est pas de susciter la colère de ceux qui ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu, mais c'est d'encourager les cœurs de ceux qui désirent satisfaire la volonté parfaite de Dieu. Donc, à titre indicatif et pour tout le reste des méditations que j'entreprends par la grâce de Dieu, eh bien, ce n'est en aucun cas destiné à des personnes qui n'ont pas une foi personnelle en la parole de Dieu. Ce n'est pas destiné à ce genre de personnes-là. Voilà, c'était une chose que je tenais à préciser pour ne pas m'attirer des accusations injustifiées. Parce que lorsque nous prêchons et présentons la parole de Dieu sans avoir égard à aux égards des hommes et aux applaudissements et à l'approbation des hommes, eh bien le danger, c'est que nous nous exposons, si nous ne faisons pas attention, à la colère des personnes qui ne sont pas en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Mais maintenant, pour poursuivre et pour débuter notre méditation aujourd'hui, nous avons vu le sabbat dernier et les sabbats précédents, nous avons fait une étude consécutive au sujet de la volonté de Dieu et de la volonté parfaite de Dieu et de notre sanctification, notre progression en rapport direct avec la volonté parfaite de Dieu. Vous vous souviendrez si vous avez suivi. Sinon, je vous invite à visionner ces méditations de la parole de Dieu vis-à-vis au sujet de la volonté parfaite de Dieu tout particulièrement et de notre expérience dans la sanctification. Et maintenant, supposant que c'est bien notre désir de suivre à la lettre et de satisfaire les exigences de la volonté parfaite de Dieu, non pas parce que Dieu est un légaliste, mais parce que Dieu est un Dieu d'amour et que nous avons contemplé son amour dans le don de Jésus-Christ pour nous qui étions pécheurs et ennemis à Dieu. Maintenant que nous, en supposant que nous désirons maintenant satisfaire sa volonté parfaite, parce que nous avons si souvent eu recours dans le passé à sa volonté permissive et que il nous a pris en patience, il a été compatissant, il a fait preuve de miséricorde et de pitié envers nous pour nos erreurs. Maintenant, en supposant que nous voulons suivre et obéir à sa volonté parfaite. Je place ici cette hypothèse sur laquelle je vais fonder toute une méditation de la parole de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, dans notre décision de suivre et d'obéir à la volonté parfaite de Dieu, eh bien, ce qui va se révéler, se présenter à nous, c'est juste après cela, ou en conséquence directe de cette décision personnelle, eh bien, c'est que nous serons confrontés, comme Jésus lui-même, à une recrudescence de tentations par lesquelles l'ennemi cherchera à nous détourner de nos saintes résolutions et à nous faire perdre notre concentration sur les réalités célestes et éternelles. C'est ce qui se passera comme un résultat naturel de notre décision, après avoir entendu Dieu nous parler à travers sa parole, de notre décision de maintenant satisfaire sa volonté parfaite et de ne plus faire ce qu'il permet, mais de faire ce qu'il demande et qu'il commande et qui nous encourage à faire dans l'exemple qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Et donc c'est la nouvelle expérience à laquelle nous nous exposons si nous nous fondons sur cette hypothèse que nous voulons maintenant suivre et obéir à la volonté parfaite de Dieu, et je souhaite que ce soit le désir de chacun de nous. Eh bien, nous avons une parole qui est toute appropriée par rapport à la réaction naturelle qui sera la nôtre très souvent lorsque nous retrouvons confrontés à cette recrudescence de tentations par lesquelles le diable cherche à nous détourner de nos saintes résolutions. Cette expression, elle se trouve dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 et verset 12. Où je lis, « Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Nous serons surpris à bien des moments, parce que nous nous disons, mais qu'est-ce que c'est? C'est trop étrange, cette fournaise de tentation qui s'est vue augmenter par notre renouvellement de décision d'obéir, de suivre et d'obéir à la volonté parfaite de Dieu. Pas la volonté permissive, pas de faire ce que je veux parce que je le veux, mais de faire ce que Dieu veut parce qu'il le veut et que lui seul sait ce qui est bon et juste et droit. Parce que le cœur est excessivement trompeur, comme nous le lisons dans Jérémie. Donc nous ne pouvons nous fier à notre propre cœur, mais quand nous nous fions à Dieu, comme Jésus l'a fait, eh bien nous sommes appelés à faire non pas ce que la chair veut, mais ce que le Père veut. Comme Jésus disait dans le jardin à Gethsémané, il disait non, que ma volonté ne se fasse point, mon Père, mais la tienne. Eh bien, lorsque nous sommes animés par ce désir et par cette détermination vivante et active de faire la volonté de Dieu au prix de la nôtre, eh bien, nous sommes exhorté par l'apôtre Pierre ici, ne soyez point maintenant surpris de cette fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Dieu ici nous encourage à ne pas considérer ces choses-là comme étranges, mais à les considérer comme attendues. Elles seront souvent un conflit inattendu, mais en tendant l'oreille à la parole de Dieu, il nous appelle et nous instruit que ces choses-là, nous pouvons nous y attendre et donc nous pouvons comprendre que ces choses qui nous semblaient étranges sont en réalité normales dans l'expérience du chrétien qui désire et qui s'efforce de satisfaire la volonté parfaite de Dieu. Et vous, on poursuit dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Où le frère Jacques nous exhorte, « Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent. » Ne les considérez pas comme une chose étrange, mais regardez-les comme le sujet d'une parfaite joie. Ces diverses tentations qui vous arrivent, cette fournaise ardente. Pourquoi ? Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est une efficacité parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Comment ? Afin que vous soyez quoi ? Parfait, accompli, ne manquant en rien. Tel est l'objectif de Dieu pour l'homme dans le plan du salut à travers Jésus-Christ dans l'Évangile. Et donc ces choses qui nous arrivent, ces diverses tentations, que devons-nous faire avec elles ? Eh bien, il nous faut les considérer comme le sujet d'une parfaite joie, ne pas les trouver étranges, mais pas simplement cela. Dans le but que l'épreuve de notre foi produise la patience. Quelle épreuve, quelle foi, quelle patience ? Ce sont des questions auxquelles nous désirons ici répondre par la grâce de Dieu. Est-ce l'épreuve d'une foi imaginaire ? Est-ce une patience inerte ? Est-ce une et nous avons vu que c'est une épreuve bien réelle, parce que ce sont des tentations fortes. Maintenant, lorsque nous nous retrouvons confrontés à cette épreuve, cette fournaise, ces diverses tentations qui nous arrivent parce que nous avons décidé de suivre Dieu, parce que si nous décidons de suivre notre propre volonté, nous ne ressentirons pas le caractère odieux du péché. Donc cette expérience ne pourra pas être la nôtre, parce que celui qui vit selon la chair, il satisfait, il a satisfait et il assouvit les désirs de la chair, et donc il n'a aucun conflit avec la chair. Vous comprenez ? Mais le conflit vient lorsque nous désirons nous opposer aux désirs de la chair et faire la volonté de Dieu plutôt que la volonté de la chair de péché. Comme Jésus nous en a donné l'exemple. Qu'est-ce qu'il faut maintenant, lorsque nous décidons de faire cela, de suivre l'exemple de Jésus ? Il faut que l'épreuve de notre foi produise la patience. Mais il dit, mais que la patience est une efficacité parfaite. Il faut que ce soit une patience efficace, afin que vous soyez parfait et accompli, ne manquant en rien. Donc il faut que cette épreuve crée en vous une patience, mais pas une patience inerte, pas une patience qui n'accomplit rien, pas une patience qui se laisse aller par le cours d'eau de la tentation, mais une patience qui soit active, une patience qui soit le fruit d'une foi vivante, qui est agissante par l'amour de Dieu, comme nous avons lu dans Galates précédemment, dans nos études précédentes. Il faut que nous ayons une foi vivante, une foi agissant par l'amour, Et il faut que cette épreuve de notre foi produise une patience, c'est-à-dire le fruit d'un effort personnel et réel de résister à la tentation. Telle est la patience que Dieu veut que nous atteignions. Et d'ailleurs, nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, qui est le message du troisième ange. Dans Apocalypse chapitre 14, nous lisons vis-à-vis de ce troisième ange et de ce peuple qui naît au sein de ces épreuves de la période des trois anges, qui n'est autre que la période de la purification du sanctuaire. Nous lisons à Apocalypse chapitre 14 verset 20, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il y a ici un lien étroit entre ces trois aspects, parce que la patience des saints, elle ne peut que naître d'une épreuve où les tentations se sont accrues, parce que le désir de satisfaire la volonté parfaite de Dieu s'est affermi dans le cœur de ces personnes-là. Et ils ont décidé de garder les commandements de Dieu et ils ont manifesté la foi de Jésus pour résister à la tentation de désobéir à Dieu. Et donc de ne pas garder ses commandements. Mais garder les commandements de Dieu, c'est lui obéir, faire sa volonté et non point la nôtre, non point celle de la chair. Et cela nécessite la foi de Jésus. Pas une foi inerte, pas une foi imaginaire, pas la foi que moi j'imagine être la foi dont la parole de Dieu parle, mais la foi que Jésus a manifestée. Et d'ailleurs, en parlant de ce Jésus et de cette foi de Jésus, qui seul peut produire cette patience qui aura une efficacité parfaite afin que nous soyons enfin parfaits et accomplis, ne manquant en rien pour l'avènement de Jésus-Christ. Eh bien, nous lisons maintenant Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, versets 14 et 15. Puisse donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Retenons ferme notre profession. Hein, il est dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Il intercède en notre faveur auprès du Père. Il intercède pour nous et, comme nous allons le lire d'ailleurs, il fait quelque chose pour nous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Donc il a été tenté, comme nous le disions d'ailleurs dans notre lecture biblique, il a été éprouvé, ou comme c'est écrit en anglais, il a été tenté en toutes choses comme nous, par cette épreuve des tentations, mais à cette différence près, qu'il n'a pas péché, il n'a pas cédé à la tentation, mais il a été tenté en toutes choses comme nous. Et donc c'est un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Mais dans quel but? Dans quel but? Et qu'est-ce que cela va bien pouvoir faire pour nous qu'il puisse compatir à nos infirmités? Nous poursuivons dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Et puis nous poursuivons. « Puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, en parlant de nous, nous qui sommes enfants d'Adam, puisse donc que les enfants participent de la chair et du sang, il, Jésus, en a aussi de même participé, afin que par la mort, il détruisît celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. Verset 17. C'est pourquoi il a fallu qu'il devint semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux qui peut compatir à nos infirmités et à nos épreuves, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les choses de Dieu pour expier les péchés du peuple, car ayant été tenté dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Voilà l'utilité, le but pour nous que Jésus puisse compatir à nos infirmités. C'est pour qu'il puisse secourir ceux qui ont été tentés. Et d'ailleurs, parce qu'il a été tenté dans ce qu'il a été, dans ce qu'il a souffert et qu'il a été éprouvé en toutes choses comme nous, nous lisons au chapitre 4, verset 16, « Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. » Il y a ici une activité très précise qui est ici exprimée, que l'on veut pouvoir discerner et comprendre, et pas simplement lire ces choses comme une expression vague de quelque chose que nous ne savons pas, que nous ne, dont nous ne comprenons pas le sens. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Et c'est précisément dans le temps de la tentation, dans le temps de l'épreuve, que nous avons besoin d'obtenir la miséricorde pour que nous ayons l'assurance que nous nous tenons justifiés devant Dieu et de trouver la grâce, la force pour être secourus dans le temps convenable. Donc ici, c'est une information, une déclaration de l'inspiration qui nécessite un angle plus élargi pour comprendre et pour laisser à la Bible l'opportunité de s'exprimer elle-même. Afin que nous n'ayons pas une vision étroite de la parole de Dieu, mais que nous ayons une vision élargie du sens bien concret que nous pouvons nous approprier et auquel nous trouverons une application très pratique dans notre vie quotidienne. C'est ce que nous essayons ici de faire aujourd'hui. Et j'aimerais ici, pour poursuivre, lire dans le livre Jésus-Christ, à la page 98 et au paragraphe 1. Certains prétendent que Christ ne pouvait être vaincu par la tentation. Mais il n'aurait pu alors occuper la position d'Adam et remporter la victoire où Adam était tombé. Il ne serait pas capable de nous secourir si nous avions à soutenir des conflits plus redoutables que les siens. Non, notre Sauveur a revêtu notre humanité avec tous ses dangers. Il a pris la nature de l'homme avec la possibilité de céder à la tentation. Nous n'avons rien à supporter qu'il n'ait enduré lui-même. Donc ici, c'est un élément vraiment important dont on a vraiment besoin tout un chacun pour réaliser et ne pas être contaminé par cette idée que même Jésus ne comprend pas ce que je traverse. C'est le grand danger et le grand mensonge du diable. C'est que, comme nous l'avons lu au début, certains prétendent que Christ ne pouvait être vaincu par la tentation. Il y a certaines personnes qui comprennent la parole de Dieu comme disant, comme faisant comprendre que Christ ne pouvait être vaincu par la tentation, mais qu'il s'est donné en exemple et qu'il est quand même devenu en sacrifice. Sauf que s'il ne pouvait être vaincu par la tentation, nous disons alors qu'il ne serait pas capable de nous secourir si nous avions à soutenir des conflits plus redoutables que les siens. Mais la raison pour laquelle il peut secourir ceux qui sont tentés, dont moi je fais partie et vous aussi, c'est qu'il a lui-même été, comme c'est écrit, tenté en toute chose comme nous. Nous n'avons rien à supporter qu'il n'ait enduré lui-même. Donc ça, c'est un aspect vraiment important pour que l'on puisse se prémunir de cette idée, de cette tentation de penser que Christ ne comprend pas ce que je traverse. Parce que nous lisons qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Et comme nous allons le voir en poursuivant, la puissance de la parole écrite, c'est une chose que nous avons besoin de réaliser pour pouvoir nous y accrocher et en nous y accrochant, de pouvoir réaliser plus amplement encore et encore le bon fondement des déclarations de la parole de Dieu et la puissance qui est renfermée dans chacune des paroles de Dieu. Donc c'est en faisant l'effort de nous accrocher à cette parole, que cette parole prend de l'ampleur et que nous réalisons la puissance de la parole. Donc cela ne va pas dans le sens de la philosophie humaine qui veut que nous prouvions chaque chose avant d'admettre une certaine réalité, mais Dieu demande de notre part une foi qui n'est pas aveugle, mais qui se fonde sur le bon sens de la parole de Dieu dans d'autres endroits pour que ensuite nous nous saisissions de certaines promesses, de certaines déclarations, sans pour autant que nous comprenions, que nous arrivions à saisir tout leur sens et tout leur ampleur, mais que nous les saisissions et qu'ensuite, quand nous nous en saisissons par la foi, elles grandissent, elles croissent en puissance et en importance dans nos vies. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons maintenant en regardant et en nous concentrant sur la tentation de Jésus dans le désert. Je lis pour cela dans les livres Jésus-Christ, encore une fois, à la page 97 et au paragraphe 3. Bien des personnes n'aperçoivent pas les conséquences qui découlent pour elle du conflit entre Christ et Satan. Et par conséquent, elle s'y intéresse peu. Pourtant, ce conflit se reproduit dans chaque cœur humain. Personne n'abandonne les rangs du mal pour entrer au service de Dieu sans devenir l'objet des attaques de Satan. Comme nous avions vu, si vous abandonnez les rangs du mal, que vous cessez de mal faire et que vous cherchez à bien faire et à vous attacher, à vous agripper à la volonté parfaite de Dieu, qu'est-ce que nous lisons ? Personne n'abandonne les rangs du mal pour entrer au service de Dieu sans devenir l'objet des attaques de Satan. Nous en trouvons un exemple suprême en Jésus, n'est-ce pas ? Les séductions auxquelles Christ eut à résister sont celles contre lesquelles nous luttons avec tant de peine. Elles, les les séductions, elles furent d'autant plus violentes que son caractère à Christ était supérieur au nôtre. Donc, la violence et la force des séductions et des tentations auxquelles Jésus a été exposé étaient proportionnelles à sa noblesse de caractère. Portant sur lui le poids effroyable des péchés du monde, Christ fut soumis, écoutez bien maintenant, Christ fut soumis à l'épreuve de l'appétit, de l'amour du monde et du désir de paraître qui fait tomber dans la présomption. Vous avez ici les trois tentations auxquelles Jésus a été confronté dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, vers lequel nous allons nous tourner, à la différence près que la liste nous est donnée pas dans le même ordre, c'est-à-dire que l'appétit c'était la première tentation, l'amour du monde c'était la troisième, et le désir de paraître qui fait tomber dans la présomption c'était la deuxième. Donc pour que l'on puisse se retrouver par la suite. À quelle épreuve Jésus fut-il soumis? Portant sur lui le poids effroyable des péchés du monde, Christ fut soumis à l'épreuve de l'appétit, de l'amour du monde et du désir de paraître qui fait tomber dans la présomption. Donc nous n'allons pas nous concentrer sur celle-ci, mais je vous rappelle brièvement que dans la seconde tentation, Satan s'est approché de Jésus, ou plutôt il l'a. Nous y allons d'ailleurs dans Matthieu chapitre 4. Donc, dans la seconde tentation, le diable a mené Jésus dans la ville sainte et l'a mis sur le haut du temple et l'a tenté de se jeter en bas. C'était pour lui une grande tentation. La tentation de quoi? Du désir de paraître qui fait tomber dans la présomption. Et l'amour du monde, c'était la tentation où le diable a mené encore une fois Jésus sur une montagne fort haute et lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire et lui a dit « Je te donnerai toutes ces choses si te prosternant, tu m'adores. » Mais celle sur laquelle on veut se concentrer aujourd'hui, c'est la première. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et ici, j'aimerais attirer notre attention vers le fait que, donc nous avons vu dans cette liste des trois tentations auxquelles Jésus a été confronté, que Christ fut soumis à l'épreuve de l'appétit, de l'amour du monde et du désir de paraître, qui fait tomber dans la tentation. La première tentation était celle, c'était l'épreuve de l'appétit. Satan a tenté Jésus-Christ sur l'appétit. Et il lui a dit, « Dis que ces pierres deviennent des pains. » Donc vous voyez, frères et sœurs, ici, il y a un danger, c'est que nous ne percevions pas l'ampleur et l'impact, comme nous l'avions lu d'ailleurs précédemment, de ce conflit entre Jésus et Satan, et notamment du caractère, l'aspect en quoi ces choses nous concernent. Voilà que Jésus venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, et vous avez les trois mots assez qui sont un bel euphémisme, où il est écrit « Il eut faim ». Donc après 40 jours et 40 nuits, nous lisons dans l'esprit de prophétie qu'il était tellement concentré sur la mission qui se présentait à lui dans le proche futur qu'il n'avait même pas ressenti la force de la faim. Il n'avait pas ressenti cette faim, mais après 40 jours, il a commencé à avoir faim. Et vous pouvez imaginer de quelle faim il s'agissait. Et c'est à ce moment-là où il était au plus faible que le diable s'est présenté à lui et lui a fait cette tentation. Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Donc lorsque vous êtes émacié et que vous êtes affaibli, fragilisé parce que vous n'avez pas mangé pendant 40 jours ici dans l'expérience de Jésus, eh bien votre capacité à être ferme, elle est d'autant plus amoindrie. Et votre désir de manger, vous êtes en danger que ce désir-là, cet appétit, prenne le dessus sur tout votre bon raisonnement. Et c'est exactement la situation dans laquelle Jésus s'est retrouvé pour nous. Et le diable lui a tenté d'exercer son pouvoir pour se nourrir, pour satisfaire cette faim intense. Mais Jésus a répondu, il est écrit. Il a eu recours à une puissance autre que le simple appétit de base et primordial de l'homme. Face même à cet appétit, à ce besoin le plus basique de la nature humaine, pour nous venir en aide dans nos tentations, Dieu a vu bon dans sa sagesse que Jésus puisse être confronté à une telle tentation suprême et intense où il se retrouverait dans la nécessité d'être confronté à un besoin de base de l'organisme humain et un besoin fondamental de soumission et d'obéissance parfaite et ininterrompue à Dieu. Et Jésus disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus disait ici que il est préférable de mourir de faim si telle est la volonté de Dieu, plutôt que de désobéir à Dieu et d'écouter les suggestions du diable et de pourvoir à sa propre survie. J'aimerais lire ici, encore une fois, l'esprit de prophétie. dans le livre Jésus-Christ, à la page 98 et au paragraphe 2 et 3. La première grande tentation eut lieu sur le terrain de l'appétit, aussi bien en ce qui concerne Christ qu'en ce qui concerne le saint couple qui se trouvait en Éden. Donc Adam et Ève ont été aussi tentés sur ce même terrain de l'appétit. Ou plutôt, Jésus a été tenté sur ce même terrain sur lequel Adam et Ève étaient tombés. Notre rédemption a commencé à l'endroit même où avait commencé notre ruine. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, Christ devait obtenir la victoire en y renonçant. Vous voyez le parallèle, ou plutôt le paradoxe, le contraste. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, Christ devait obtenir la victoire en y renonçant. Donc Adam a échoué en assouvissant son appétit et Christ a obtenu la victoire en renonçant à l'appétit. Et ensuite elle cite ce que nous venons de lire, et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim, etc. Et il répondit au diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme ne vivra pas seulement de pain, de choses qui satisfont sa faim, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, d'une relation ininterrompue d'obéissance et de foi en la parole de Dieu. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, les appétits et les passions, à force d'être assouvis par les hommes, s'étaient accrus jusqu'à avoir une emprise presque illimitée. Aussi les hommes étaient-ils devenus avilis et malades, et il leur était impossible de remporter la victoire par eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que les hommes avaient assouvi leurs appétits et leurs passions jusqu'à ce que ceux-ci aient une emprise presque illimitée sur la nature humaine. Et n'est-ce pas aussi notre condition ? En quoi sommes-nous meilleurs que ceux qui vivaient au temps de Jésus-Christ ? Les hommes étaient devenus avilis et malades à cause de cet assouvissement constant de leurs appétits et de leurs passions. Et Jésus est venu remporter la victoire sur ce même terrain-là où l'homme a si souvent failli et échoué. Christ triompha pour l'homme en se soumettant à la plus rude épreuve. Par amour pour nous, il exerça sur lui-même une maîtrise plus forte que la faim ou la mort. Vous voyez ce que je disais juste avant ? Il exerça sur lui-même une maîtrise plus forte que la faim ou la mort. Une maîtrise, une soumission à la volonté de Dieu. Et une obéissance à la parole de Dieu qui triompherait de même la plus grande faim ou même d'une mort dont on serait menacé parce qu'on a tellement faim. Mais c'est lui qui a traversé cette épreuve, donc on n'a pas réellement besoin de jeûner 40 jours et 40 nuits. Simplement, dans la force et l'intensité de cette épreuve qu'il a traversée, il nous montre à quel point est grand le danger de céder à la tentation sur le point de l'appétit et combien grand doit être aussi notre exercice de maîtrise forte sur notre corps, comme nous allons le voir. Sa première victoire a rendu possible notre propre victoire dans tous les conflits avec les puissances des ténèbres. Donc, je n'ai pas aussi ici les autres déclarations sur ce sujet-là, mais nous lisons aussi également dans l'esprit de prophétie que l'appétit est, pour ainsi dire, une porte d'entrée sur toutes les autres propensions au mal qui résident dans la chair humaine, dans la nature humaine pécheresse. Et que lorsque nous exerçons une maîtrise sur cet appétit et que nous le tenons, que nous lui mettions une bride, que nous régissions par notre raison éclairée par la sagesse de Dieu et la parole de Dieu, que nous exerçons et que nous régissions cet appétit par une raison éclairée, eh bien à ce moment-là, cela rend possible notre victoire dans tous les autres conflits avec les puissances des ténèbres. C'est à ce point important. Et c'est la raison pour laquelle il entra dans ces trois tentations avec une condition d'esprit qui lui permit surtout de vaincre la première. Parce qu'il était tellement affamé que la première aurait pu faire tomber tout autre être sur la planète. Mais Jésus-Christ a vaincu sur le point de l'appétit. Et ici, il y a quelque chose, une chose vers laquelle j'aimerais attirer votre attention, frères et sœurs, et qui renferme tout particulièrement du sens pour moi personnellement, et j'espère que je vais pouvoir vous communiquer cet attrait que j'ai trouvé dans l'exploration du sens de la parole de Dieu, et surtout de cette la signification du mot appétit et de ce que l'appétit renferme. Parce que nous avons lu, hein, je le relis pour que vous voyez bien que nous nous basons sur les déclarations de la parole de Dieu et de l'esprit de prophétie. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, les appétits et les passions, à force d'être assouvis, c'était accru jusqu'à avoir une emprise limitée. C'était juste avant. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, Christ devait obtenir la victoire en y renonçant. Notre rédemption a commencé à l'endroit même où avait commencé notre ruine. Donc notre rédemption, elle commence sur le point de l'appétit, n'est-ce pas? Et notre ruine a débuté aussi sur le point de l'appétit. Ève a mangé du fruit de l'arbre et ensuite a commencé la chute de nos parents. Mais maintenant, contemplez avec moi cette réalité, frères et sœurs. L'appétit dont il est question ici, cela ne désigne pas seulement le désir de manger ou la sensation de faim. Ce sont des expressions que j'ai prises ici, que j'ai prises dans le Larousse. Dans le Larousse.fr, une des définitions qui nous est donnée pour le mot appétit, c'est le désir de manger ou la sensation de faim. C'est quand il est marqué que Jésus eut faim, c'est de ça dont il est question. Il a eu cette sensation de faim, ce désir de manger. Il a eu faim. Et donc, son appétit a été déclenché. L'appétit de Jésus-Christ, littéral, a été déclenché. Mais sa victoire sur le point de l'appétit, sur ce terrain de l'appétit, elle est plus large que simplement le désir de manger ou la sensation de faim. Écoutez, frères et sœurs, avec moi, contemplez avec moi cette réalité. Vous allez voir combien c'est important. La puissance de cette expérience de Jésus-Christ, où il s'est saisi de la parole et de la promesse de Dieu, et l'a asséné au diable, elle a une ampleur plus grande que celle qu'on a généralement l'habitude de lui attribuer. Il ne s'agit pas simplement de manger. Ici, je lis une autre définition du Larousse pour le mot appétit. inclination par laquelle on est porté à désirer quelque chose. Inclination par laquelle on est porté à désirer quelque chose. Point virgule, désir, deux points, une expression, un appétit de possession, un appétit de bonheur. Donc c'est possible d'avoir un appétit d'autre chose que de nourriture, ou une soif, un appétit, une inclination par laquelle on est porté à désirer quelque chose, une inclination par laquelle on est porté à désirer quelque chose. Un appétit. Vous comprenez? L'appétit, voilà pour laquelle, la raison pour laquelle l'appétit, si nous obtenons cette victoire, comme c'était écrit juste avant, sur le point de l'appétit, sa première victoire de Jésus a rendu possible notre propre victoire dans tous les conflits avec les puissances des ténèbres. Tous les conflits. Je vous dis, c'est exactement comme c'est marqué en anglais. Dans tous les conflits avec les puissances des ténèbres. Cette seule victoire rend possible la victoire. Ça ne veut pas dire qu'elle nous octroie la victoire, mais elle rend possible la victoire sur les autres points. L'amour du monde et le désir de paraître qui mène à la présomption. Toutes ces choses-là commencent à l'appétit. Si nous arrivons à maîtriser l'appétit, mais pour maîtriser l'appétit, il nous faut réaliser que l'appétit, c'est plus grand encore que simplement le désir de manger. Je poursuis. Voilà la définition extensive et compréhensive du CNRTL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. Chapitre 1, pour appétit, c'est en plusieurs chapitres. Inclination liée à une fonction naturelle ayant pour objet le bien-être de l'organisme. Une définition, voilà la définition première de l'appétit. Une inclination liée à une fonction naturelle ayant pour objet le bien-être de l'organisme. Donc, est-ce que et vous avez après cela, plus spécifique, numéro 1, le désir sexuel. On parle d'appétit sensuel ou sexuel. Ensuite, numéro 2, le désir de manger. On parle de grand appétit, de perdre l'appétit, de satisfaire l'appétit. Et ces deux-là peuvent être considérés comme des fonctions naturelles ayant pour objet le bien-être de l'organisme. Suivez-moi, frères et sœurs, ici. Nous allons quelque part. Et ensuite, par extension, l'appétit est aussi un désir vif, un goût prononcé et presque sensuel pour un objet autre que la satisfaction d'un besoin naturel de l'organisme. On parle d'appétit d'argent ou de gloire. Et les syntagmes ou les couples de mots où nous trouvons le mot appétit seraient un appétit d'autorité, un appétit de domination, un appétit de gain, de bonheur, d'héroïsme, d'indépendance, de malheur, de vengeance. Toutes ces choses sont des appétits. Ça peut se transformer en passion, mais c'est avant tout des appétits. Ils peuvent être aussi dénaturés. Quoique un appétit de malheur, ça ne peut pas être bon. Mais un appétit de vengeance, cela peut être justifié par la parole de Dieu, mais cela peut être perverti. Mais ici, j'aimerais attirer votre attention surtout sur le fait que les appétits vis-à-vis duquel terrain Jésus avait besoin d'obtenir une victoire, ce sont des inclinations liées à une fonction naturelle ayant pour objet le bien-être de l'organisme. N'est-ce pas pour le bien-être de l'organisme que nous avons une inclination à manger? Si vous ne l'aviez pas, qu'arriverait-il de vous? Vous pourriez mourir parce que vous ne ressentez pas que votre corps a besoin de manger. Eh bien, quand bien même Jésus avait ce sentiment qui lui est venu par lequel son corps lui a déclaré qu'il avait besoin de manger, eh bien, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Oui, l'homme vit de pain, il ne peut pas vivre sans se nourrir, mais il vivra quoi? Mais de toute, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu aussi est une nourriture, disait Jésus, par extension. Et il est plus important de vivre de la parole de Dieu que de se nourrir des choses qui font vivre le corps. Vous comprenez? Dans le contexte de la nécessité d'obéir à la parole de Dieu, en contraste avec les tentations du diable où il nous suggère et nous incite à être présomptueux. Ce qu'il demandait à Jésus de faire, c'est dit que ces pierres se changent en pain. C'est une présomption. Sur le prétexte de l'appétit. Ici, j'aimerais donc ça, nous avons lu. Et donc, nous nous tournons vers 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Nous allons revenir juste après, parce que je n'ai pas terminé, sur cette inclination liée à une fonction naturelle ayant pour objet le bien-être de l'organisme. Vous allez voir que c'est chargé de sens. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, nous retrouvons dans le contexte des exhortations de l'Évangile pour le chrétien. Ce même principe, cette même activité que Jésus a lui-même pratiquée. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice ou dans l'arène courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. Je cours donc, dit l'apôtre Paul, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air. Mais, que fait-il? Quelque chose qui ne soit pas inutile, quelque chose qui soit nécessaire, à la différence de ces athlètes grecs. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Et ici, dans la Bible Martin, pour là où il dit « je traite durement mon corps », nous lisons « mais je mortifie mon corps et je me le soumets ». Donc, n'est-ce pas ici ce que Jésus a fait dans cette expérience rude et intense et extrême de la tentation sur le point de l'appétit? Il faisait ce que l'apôtre Paul dit, à savoir « je mortifie mon corps et je me le soumets, ou je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur que cet appétit, cette fonction naturelle, cette inclination à satisfaire une fonction naturelle ne me porte à faire quelque chose qui soit contraire à la parole de Dieu. Je fais quoi? Je mortifie mon corps. Mais là, ici, vous voyez, frères et sœurs, que cette activité que Jésus nous a lui-même manifestée dans cet exemple de la tentation du désert va jusque même dans les choses qui sont naturelles. de telle sorte qu'il nous montrait et qu'il pourvoyait pour nous un exemple que même dans des situations où des choses sembleraient légitimes, si elles ne font pas partie de la volonté du plan et de la volonté parfaite de Dieu pour nous, eh bien, nous sommes encouragés, comme Jésus, à mortifier ces appétits qui, dans d'autres circonstances, auraient pu être assouvis. Je vais m'expliquer, frères et sœurs. J'aimerais, juste pour bien compléter cette déclaration d'un Corinthiens chapitre 9, lire le commentaire biblique à la page 14, verset, à la page 1414. Tous ceux qui recherchent la récompense doivent se placer sous une discipline stricte. Tout homme qui combat, il cite, s'abstient de tout. Ceux qui participent à un concours de force physique pour un prix corruptible comprennent le besoin d'une stricte abstinence de tout plaisir qui affaiblit les facultés physiques. Ils mangent des aliments simples à intervalles réguliers. À combien plus forte raison ceux qui participent à la course de l'Évangile devraient réprimer leurs appétits illégitimes et s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il vient de citer un passage que je n'ai pas sous la main. Je relis. Écoutez bien cet aspect où l'esprit de prophétie nous éclaire vis-à-vis de précisions bien nécessaires. À combien plus forte raison, maintenant il met en contraste, comme nous l'avons lu par l'apôtre Paul, ces athlètes grecs des Jeux Olympiques d'antan, aux chrétiens qui marchent et qui participent à la course de l'Évangile. À combien plus forte raison ceux qui participent à la course de l'Évangile devraient réprimer leurs appétits illégitimes et s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des appétits illégitimes. Donc il y a des appétits légitimes et des appétits illégitimes. Et nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ils doivent être sobres en tout temps, cette même restriction qui leur donne le pouvoir d'atteindre une fois la victoire, si elle est pratiquée constamment, leur donnera un grand avantage dans la course pour la couronne de vie. C'est le même message qui nous avait été donné précédemment où nous lisons que Jésus, en remportant cette victoire sur l'appétit, nous a donné la possibilité, a rendu possible pour nous d'obtenir notre victoire, une victoire sur tous les autres conflits avec les puissances des ténèbres. Et donc maintenant, ce vers quoi je voulais attirer votre attention, c'est que en rejoignant ici tous ces messages que nous venons de recevoir de la part du Seigneur, nous voyons bien que nous devons apprendre à nous abstenir d'appétits qui nous sont naturels, mais qu'il nous serait illégitime d'assouvir dans nos circonstances. Réfléchissez avec moi sur cet aspect-là. Était-il légitime pour Jésus, dans d'autres circonstances, d'assouvir sa faim? Qu'est-ce qui empêchait Jésus d'assouvir sa faim? Eh bien, la providence de Dieu manifestait bien que bien sûr, c'était la volonté de Dieu qu'il mange à un certain moment, mais pas à ce moment-là. Parce que le moment présent que nous lisions dans Matthieu chapitre 4, le moment de la tentation dans le désert, c'était le moment de la tentation. Ce n'était pas le moment de manger. Vous comprenez? D'où ce que je disais, c'est que nous devons apprendre à nous abstenir d'appétits qui nous sont naturels, mais qu'il nous serait illégitime d'assouvir dans nos circonstances. Dans d'autres circonstances, si ces circonstances justifient d'assouvir des appétits normaux et légitimes, eh bien, il n'y a pas de problème. Si vous êtes le matin, il n'y a pas de problème à manger, à satisfaire cet appétit. S'il est le midi, il n'y a pas de problème à manger, à assouvir cet appétit, cette inclination, je le relis, cette inclination liée à une fonction naturelle ayant pour objet le bien-être de l'organisme. Selon les circonstances. Maintenant, j'aimerais nous fournir des exemples pour bien cerner. Et c'est un exemple assez extrême, mais qui reflète bel et bien les circonstances et les épreuves auxquelles nous sommes confrontés dans ces derniers jours, et étant animés du désir de suivre et d'obéir à la volonté parfaite de Dieu. Eh bien, un exemple, c'est que dans ce contexte de notre nécessité de nous abstenir d'appétits qui nous sont naturels mais qui nous seraient illégitimes d'assouvir dans nos circonstances, eh bien, une femme aura peut-être le désir d'avoir un homme, un mari, et d'avoir des enfants. Hein, c'est un désir. Hein, j'aimerais vous rappeler que Dieu, dans Genèse chapitre 1, ce sont des choses que je connais très bien. Des hommes et femmes sont malmenés par le diable sur ces sujets-là. Parce que c'est Dieu lui-même qui avait dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il n'y a pas seulement cette déclaration, mais il y a au cœur de l'homme et de la femme un désir de ne pas être seul. Ou plutôt, d'être joint. Parce que juste après, il dit, j'y repars, parce que c'est très important que nous discernions l'impact de la tentation, de l'exemple de Jésus dans la tentation du désert vis-à-vis de nous-mêmes qui sommes aussi tentés et confrontés à des tentations sans précédent. Et dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé Ève et Adam dit « Celle-ci enfin est eau de mes eaux » et chair de ma chair, celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. Prise de l'homme. Elle était à ce point proche de lui. C'est pourquoi, verset 24, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus, etc. Ils seront une seule chair. Et Dieu lui-même avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, vous êtes un homme ou une femme et vous êtes peut-être animé du désir d'être joint. Une femme, d'être joint à une autre personne du sexe opposé, n'est-ce pas? Une femme aura peut-être le désir d'avoir un homme, d'avoir un mari, hein, nous ne parlons pas ici de concubinage, et d'avoir des enfants. C'est un désir, c'est un appétit, vous pouvez le distinguer comme un appétit. Parce que nous avons vu, appétit ça peut être un désir sur toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement liées au bien-être de l'organisme. Mais ici, c'est bel et bien lié au bien-être de l'organisme parce que Dieu lui-même a dit « il n'est pas bon » que l'homme soit seul. Vous comprenez? Dieu était en train de dire, pour son organisme, c'est un être social, d'ailleurs l'esprit de prophétie nous dit, que l'homme est un être social qui est fait pour être avec d'autres personnes. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et ensuite il lui a fait une aide semblable à lui, qui était une femme. Il n'a pas fait un homme. Ça n'était pas compatible. Il a fait une femme. Et donc, il se peut que je reviens parce que c'est important que on précise toutes ces choses. Une femme aura peut-être le désir d'avoir un homme, un mari, et d'avoir des enfants. Elle a peut-être ce désir, cet appétit naturel qui a été instauré, installé à l'intérieur de ses gènes et qui revient à elle. Un appétit, un désir d'avoir un homme et d'avoir des enfants. Mais si la providence, écoutez bien, frères et sœurs, si la providence révèle que ce n'est pas le plan ou la volonté parfaite de Dieu pour elle, il lui faut apprendre à mortifier ses appétits qui font partie de l'organisme. Oui, ce sont des appétits qui font partie de l'organisme, mais il lui faut apprendre à mortifier ces appétits qui font partie de son organisme, mais qui ne trouvent leur place légitime que dans le cadre du mariage. Et donc, c'est la même chose pour l'homme, bien entendu. Si Dieu, dans son infini, nous sommes encore dans les exemples, si Dieu, dans son infinie sagesse, voit qu'il ne serait pas dans son intérêt, dans l'intérêt de l'homme, d'être joint à une autre âme, à une femme, alors il lui faut accepter son destin et apprendre aussi à traiter durement son corps, ou comme c'était écrit dans Martin, à mortifier son corps, comme Jésus l'a fait. Oui, il avait faim, oui, c'était normal de manger, mais pas dans ces circonstances-là. Pas dans ces circonstances-là. C'est l'exemple que nous a donné Jésus-Christ. Si Dieu, dans son infinie sagesse, voit qu'il ne serait pas dans son intérêt, dans l'intérêt de l'homme, d'être joint à une autre âme, une aide semblable à lui, une femme, alors il lui faut accepter son destin et apprendre à traiter durement son corps et à l'assujettir au pouvoir régulateur d'une raison qui a été éclairée par l'esprit et par l'amour de Dieu. Voilà l'appel qui se présente à nous, frères et sœurs, dans ces derniers jours. Les choses qui étaient peut-être naturelles, qui auraient peut-être été justifiées et légitimes dans d'autres circonstances, ne le sont peut-être pas dans les nôtres. Et des choses que nous voyons d'autres personnes faire, tout en étant en harmonie parfaite avec la volonté de Dieu, ne sont peut-être pas le plan de Dieu pour nous. Mais peut-être que son plan est que vous fassiez du bien et que vous en fassiez plus parce que vous êtes seul. Mais rappelez-vous, Jésus est venu dans le monde et il avait un nom. Et ce nom, c'était, tu l'appelleras Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et donc, en Jésus-Christ, cette soif qu'a la femme, qu'a l'homme, d'être joint à un autre, à une aide semblable à lui, à elle, elle est satisfaite en Jésus-Christ, qui est Dieu avec nous. Dieu avec nous. Je vous invite à, pour conclure notre méditation, vous tourner vers le passage de 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4 versets 1 et 2. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, n'est-ce pas? Il a souffert. Il a dit, non point ma volonté soit faite, Seigneur mon Père, mais la tienne. Christ ayant donc souffert pour nous, dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Versets 12 et 13. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Et maintenant le verset 13 que nous n'avions pas lu. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Et verset 19, que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leurs âmes comme à un créateur fidèle en faisant le bien. C'est un créateur fidèle. Il est fidèle. N'est-ce pas ce que l'on cherche chez un compagnon? Qu'il soit fidèle, qu'il nous chérisse. Dieu est tout cela. Jésus-Christ, Emmanuel et Dieu avec nous. Et donc, lorsque nous souffrons dans la chair, par la volonté de Dieu, nous pouvons lui recommander notre âme et dire, Seigneur, c'est toi qui es mon ami fidèle et tendre, n'est-ce pas? Et en nous armant de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair, tout comme Jésus, a cessé de pécher. Et donc, frères et sœurs, puissions-nous, étant armés de cette pensée, nous réjouir de ce que, si nous faisons ces choses-là, nous participons aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera manifestée, nous soyons aussi, avec les rachetés, comblés de joie. C'est ma prière. Au nom de Jésus. Amen.